gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
À toi qui écoute encore Radio Canu après cette formidable émission de Dead Moon Night.
Ça veut dire que tu as survécu.
C'est ça. Quel bon signe. Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, comme je le disais, toujours au 102.2 sur la bande FM et sur radiocanu.org, partout ailleurs, comme tous les dimanches à partir de 22h et quelques petites poussières.
C'est la causerie.
C'est ça. Je reprends mon souffle.
À la tu as couru un marathon.
Un marathon. À la technique, nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est un petit bonsoir dans le casque.
Bonsoir.
Voilà. C'est plus mieux. Nous avons aussi Fab.
Bonsoir.
Et
Jean-Yves.
Bonsoir. Et avant de causer, je vais évidemment vous rappeler comment nous joindre. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails parce que les commentaires, sur le blog sont toujours les abonnés absents. Pour des raisons de problèmes techniques. Donc,
et d'attaque, parce qu'on peut le dire.
Tac-tac.
Oui, d'attaque. Il y a eu des attaques contre.
Oui, tout à fait. En fait, c'est parce qu'on a eu
les commentaires.
Oui, on a eu des milliers de commentaires sur certains blogs. Et en fait, pour l'instant, au mieux, on bloque tout pour ne plus avoir justement ce genre de problème. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez laisser une sorte de commentaire, c'est à. La causerie canu, tout attaché en minuscules, lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez écouter les causeries que vous n'avez pas pu entendre, que vous voulez réentendre, parce que c'est tellement formidable, surtout ma voix à peine aiguë,
Radio Canu. Et ton rire phénoménal.
Mais tout à fait. C'est donc à radiocanu.org// pour les intégristes du français.
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà, vous tapez dans votre petit moteur de recherche la causerie Radio Canu et vous tomberez sur nous.
Oh là et là. Surtout aussi dans des trucs qui passent des podcasts et on est aussi sur un réseau socio-commercial, tout ça. Ouais. Et sinon, c'est toi du 24 rue Sergent Blandan pour les pigeons voyageurs.
Ah oui,
voilà, parce qu'on a un pigeonnier, mais il est sur le toit, ne l'oubliez pas.
C'est vrai. Par contre, on n'a personne qui récupère les messages.
C'est un
peut-être qu'on allait voir, parce que ça se trouve, il y a des millions de messages sur le toit, en fait. Enfin bref, on a assez dit de conneries. Là, on va passer en mode on dit plus de conneries.
Ah non, là, on va passer
en
mode pas drôle.
Fab qui prend le crachoir pour nous parler de luttes intestines faites sur le dos d'humains.
Ouais, alors moi, je vais d'abord dire un truc avant de commencer cette chronique. On vous promet que les deux prochaines émissions, celles du 19 et du 26, seront plus légères.
Oui.
Voilà. Parce que même si on n'est pas très fête de fin d'année, on se rend quand même compte que, bon, on va pas vous plomber l'ambiance toutes les vacances que vous pourriez avoir ou toutes les périodes comme ça. Donc voilà. Mais c'était juste pour le dire, parce que ce soir, j'ai un sujet, encore une fois, qui n'est pas du tout joyeux.
Oui,
voilà.
Et c'est aussi surtout que quand justement plein de gens sont souvent en famille ou autre pour faire la fête, ouais. D'autres écoutent la radio parce que c'est peut-être parfois le seul média qu'ils ont, ou en tout cas c'est celui vers lequel ils veulent tendre leur oreille, ces soirs de festivité. Donc effectivement, on va pas leur infliger, en plus d'être cloué à la maison, au lit, à l'hôpital ou je ne sais où, voilà. En plus des sujets dramatiques, donc on va essayer effectivement.
Mais vous aurez donc compris que nous sommes là le 26
bien
décembre.
Bien sûr, mais voilà. Évidemment, enfin.
Alors donc du coup ce soir je vais vous parler de la France, du Royaume-Uni et des réfugiés entre ces deux pays, parce que c'est de ça dont je vais parler ce soir. Alors, on va poser d'abord le contexte. Vous avez sans doute vu Gérald Darmanin, vous savez, c'est le ministre de l'Intérieur. Il a annoncé le 7 décembre qu'un homme serait licencié pour avoir lacéré les tentes de réfugiés dans le campement de Sainte.
Voilà. Alors, Sainte, c'est un policier?
Non, c'est une personne d'entreprise
privée. C'est une personne.
C'est une personne d'entreprise privée parce que l'État fait appel à une entreprise privée pour, voilà. Donc voilà. Donc il a annoncé qu'il était licencié. Non, c'est vraiment, il a dit une personne. J'ai repris ses mots. Hein.
Okay.
Donc voilà. Alors, Sainte, c'est à côté de Calais, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à voir où ça se situe. Et ce, donc, il l'a dit au nom de l'humanité qui doit, je cite notre ministre, entourer les évacuations des zones où les migrants s'entassent. Fermez la parenthèse. Enfin, la guillemets. On notera l'humanité, hein, du contenu de cette phrase, hein, parce que moi je savais pas que les humains s'entassaient. Alors je voudrais juste rappeler à M. Darmanin que les meubles Ikea s'entassent, mais que les humains ne s'entassent pas, ça ne se dit pas. Et c'est, voilà, on voit bien qu'il y a un mépris total de ce que sont ces gens. Oui. Alors ne nous mentons pas, ce licencié est un lampiste, hein, ni plus ni moins. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un lampiste, c'est la personne à qui on fait porter les choses quand il y a quelque chose de grave, mais c'est généralement la personne qui est au plus bas de l'échelle, évidemment. Et on l'a fait payer alors que les ordres étaient clairs. Les ordres étaient rendre inutilisables les tentes. Voilà. Donc, il a fait ce qu'on lui a demandé, en gros. Hein. Alors, c'est bien en suivant les ordres de la préfecture, et donc de l'État, et donc de Gérald Darmanin, hein, pour être clair, que l'idée est venue à cette personne de lacérer les tentes avec un cutter. Voilà. Alors, et preuve que c'est plus pour l'image qu'autre chose qu'on licencie, le ministre de l'Intérieur, dans la même conférence de presse du 7 décembre, il stipule qu'on prendra directement les tentes et on les mettra directement dans les déchets sans les lacérer. Donc, voilà. Donc, ce seront donc bien des tentes qui sont rendues inutilisables, mais sans images trop choquantes. Voilà, en gros. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, en répondant aux journalistes, il a démontré l'absurdité et surtout la dégueulasserie de tout ça, quand même.
Hein. Voilà. C'est marrant. Donc là, en fait, les détruire, enfin, les mettre dans une benne, c'est humanisant.
Voilà, c'est plus humain. Parce que les tentes souffrent quand on les lacère.
C'est horrible.
Pardon, mais bon.
Non, mais c'est vrai.
Alors, la zone géographique de Calais et de Sainte, hein, voit revenir depuis quelques temps plus de réfugiés qui désirent passer au Royaume-Uni pour tenter d'avoir une vie meilleure. On se souvient des accords du Touquet qui ont été signés alors trois fois, parce qu'il y a eu trois accords du Touquet, entre la France, le Royaume-Uni. Et en fait, l'idée, c'est que la France fasse la police pour éviter, je cite, c'est dans les accords, la traversée des migrants sur des embarcations de fortune vers les îles britanniques ou via les camions qui embarquent dans l'Eurostar sous la Manche. Voilà. Bon, c'était juste pour poser, donc, comme je disais, le contexte. Alors, il s'est passé un drame parmi tant d'autres, malheureusement, mais qui a marqué un peu les esprits. Alors qu'on est plus ou moins habitué, et c'est terrible, à ce que 2 à 3 personnes meurent en Méditerranée chaque jour, hein, c'est-à-dire entre 600 et 1200 personnes par an, hein, voilà, c'est les chiffres, en tentant de traverser pour rejoindre l'Europe, les 27 morts noyés du 24 novembre dans la Manche nous ont marqués. Alors en fait, sans doute c'est parce que ces morts interviennent dans une mer que nous n'avions pas encore identifiée comme un point de passage des réfugiés. C'est-à-dire que dans la Méditerranée, on est habitué, ça va, bon, la Manche un peu moins. Et pourtant c'est les mêmes morts, hein. C'est des gens qui sont sur des embarcations de fortune et qui coulent, hein, on va être très clair. Et d'un seul coup, le sort des réfugiés qui attendent de pouvoir passer au Royaume-Uni est venu un temps. Alors un temps, hein, parce que le temps médiatique il est assez court, hein, on s'en rappelle, et alors le temps des réseaux sociaux encore plus, hein, c'est-à-dire que voilà. Et donc c'est venu un temps perturber notre quotidien, c'est-à-dire que d'un coup on s'est rendu compte qu'ils existaient. Alors difficile, hein, effectivement, de ne pas réagir et de ne pas compatir pour ceux qui ont encore un peu d'humanité en eux. Je veux dire, voilà, faut quand même pas, voilà. Difficile de ne pas se demander comment nous en sommes arrivés là, comment on peut laisser mourir des gens sur des embarcations de fortune juste parce qu'ils aspirent à vivre mieux. Parce que c'est ça, hein, que ces réfugiés cherchent. Oui. Et je n'emploie pas l'expression « laisser mourir en vain ». Il a été démontré, notamment par plusieurs journalistes, que sur l'embarcation en train de couler, des appels téléphoniques ont été émis à l'aide de téléphones portables GSM qui bornaient, donc c'est-à-dire qui étaient reliés à des antennes. Hein, donc voilà. Et ces appels téléphoniques ont été émis pour appeler les secours, mais que rien n'a été déclenché avant de bien trop longues minutes. Alors, certains parlent d'heures, d'autres de minutes, mais bon, dans tous les cas, c'est trop long, parce que dans ces cas-là, faut pas attendre. Hein, voilà. Chacun, en fait, se renvoya, hein, la balle entre le Royaume-Uni et la France, parce que comme on était aux limites des eaux internationales, et ben, au lieu de lancer un sauvetage commun, on s'est renvoyé la balle à dire « Non, c'est toi qui y vas, non, c'est toi, non, c'est toi qui y vas, non, c'est toi, non, c'est toi, voilà. » Et pendant ce temps, ben, vous aviez des gens qui crevaient en se noyant, tout simplement. Alors juste, je vais citer, parce que je l'ai trouvé très belle, le président de la SNSM, qui rappelle qu'il aimerait que la SNSM ait le droit absolu d'intervenir, y compris dans les eaux internationales. Aujourd'hui, elle est limitée aux eaux nationales françaises. Et ils disent, nous, c'est notre métier, c'est notre passion, c'est notre vie. Alors il le dit comme ça, passion, je trouve ça étonnant, mais c'est la passion de sauver les gens, en fait. Et lui n'a pas pu intervenir, et voilà. C'est quelque chose qui le choque énormément et je le comprends. Voilà.
Et juste, on le rappelle, hein, la France finalement délègue la sécurité de ses côtes à une association.
Tout à fait. La SNSM, mais qui n'a pas le droit d'aller dans les eaux internationales.
C'est ça, la SNSM, peu... c'est une association, c'est ce ça. Sont des bénévoles
ouais,
en fait.
Tout à fait.
Donc il faut le rappeler aussi quand même. Quoi,
et j'ai trouvé très bien qu'ils prennent position en disant, mais ouais. Nous, si on avait reçu l'appel, on partait immédiatement et on ne se posait pas la question.
Bah, parce que le code de la mer, c'est en fait, il y a quelqu'un à l'eau, tu vas le secourir, on s'en fout de où tu es. Quoi.
Et en fait, c'est là que tout a été remis en avant. Hein. C'est les conditions dans les bidonvilles de réfugiés, les lacérations des tentes, parce que c'est là que les images sont ressorties, en fait, en réalité, même si plusieurs associations nous disent « ça fait longtemps que c'est pratiqué et par beaucoup plus de personnes qu'une seule, faut arrêter de prendre les gens pour des couillons », mais en fait, là, ça sert un peu, comme je disais, de lampiste, on le prend, on le vit, on dit « regardez, on est humain ». Ah, voilà.
Oui, parce que vraiment, j'ai le souvenir de photos de vidéos de taillage de tentes
oui,
qui remontent à il y a des années. Quoi, donc,
Et donc, le ministre, il va venir faire semblant de réhumaniser tout cela. Son travail au ministre, il fait semblant. Donc on est quand même en campagne électorale, faudrait pas déconner, hein, donc on fait semblant de réhumaniser. Alors d'où viennent ces réfugiés? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller un peu interroger ces personnes qui sont là. Alors moi j'aimerais juste vous parler d'eux, enfin de qui ils sont. Alors ceux qui risquent leur vie hein, finalement, et qui vivent dans des conditions dégueulasses, simplement par espoir que le lendemain soit meilleur que l'aujourd'hui et que la veille. En fait, selon les associations qui leur viennent en aide sur place, il s'agit surtout de réfugiés qui sont là parce que poussés par des conflits et des risques dans leur pays d'origine, hein, tout simplement. Donc non, le fantasme zémourien et le péniste de gens qui nous envahiraient pour nous grand remplacer, non, en fait, c'est juste des gens qui ont fui parce qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. Donc beaucoup sont donc d'origine syrienne, de la zone kurde de l'Irak, d'Angola, de Sierra Leone, d'Érythrée et du Yémen. Et en fait, si vous regardez les cartes, c'est l'endroit où il y a soit des coups d'État, soit des conflits, soit des guerres en cours, hein, tout simplement. En fait, Calais et sa région abritent des réfugiés venus des principales zones de conflit et de pauvreté au monde, hein, tout simplement. En particulier, en fait, c'est surtout les migrants à Calais sont surtout des migrants qui sont anglophones, c'est-à-dire qui parlent anglais en plus d'une autre langue généralement, et qui sont en fait persuadés, et sans doute à juste raison, qu'ils trouveront au Royaume-Uni des débouchés plus facilement du travail et de quoi vivre. Bah oui, quand on parle l'anglais, c'est quand même plus simple d'aller dans un pays où on parle anglais. Hein. Voilà. Alors plusieurs associations soulignent d'ailleurs que le durcissement de ces 10 dernières années de la fameuse politique migratoire, et je mets des guillemets, de la France, n'a fait que renforcer l'envie de traverser. La plupart en fait sont quasiment certains de ne pas être acceptés en France, vu qu'aujourd'hui, la maîtrise minimale du français est demandé en fait pour pouvoir avoir un permis de séjour en dehors en fait des réfugiés politiques. Donc ils savent que eux en tant que simples réfugiés, je mets des guillemets à simples réfugiés, parce que pour moi des gens qui fuient la guerre et des guerres où les occidentaux ont une part importante de responsabilité, genre on aurait vendu des mirages à des
genre,
pays qui bombardent,
quoi. Oui, pardon. Genre tu pousses un peu loin, je trouve.
Genre des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Ils disent oui, mais nous, si on va demander, en fait, il y a des dizaines d'autres critères, en fait, plus complexes les uns que les autres, qui vont faire qu'on va pas pouvoir, de toute façon, être accepté comme réfugié. Et ils tentent même plus le coup, parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils ont tenté, ils ont été repoussés pour des raisons X, Y ou Z. Et une des principales, d'ailleurs, qui est avancée par les associations, c'est le fait qu'on demande à ces personnes, et on en avait parlé quand on avait reçu les jeunes mineurs sans toit, voilà, on leur demande d'avoir des papiers officiels. Alors oui, mais il y a plein de pays en fait où ça n'existe pas, ou alors tout simplement quand votre maison a été bombardée, vous n'avez pas trop pris le temps de les récupérer. C'est ballot.
Et puis entre le moment où la personne peut partir de chez elle et jusqu'à où au moment où elle arrive,
il peut
ici,
se passer plein de choses. Je veux
il
dire.
Peut se passer enfin, des années. Il peut se. Enfin, c'est oui.
Sans parler, j'en parlerai plus tard, des passeurs qui peuvent avoir leur confisqué des papiers, des choses comme ça. Alors. Il ne faudrait pas oublier qu'en ce moment, il y a une crise de la pêche, il y a le Brexit, et il y a donc des conséquences politiques entre le Royaume-Uni et la France. Donc, vous le savez, hein, le Royaume-Uni, il a fait le choix de quitter l'Union européenne. C'est son choix. Et depuis, on peut dire que les choses se sont un peu tendues entre les voisins proches, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Bah oui, parce que si vous prenez une carte de l'Union Européenne, le voisin le plus proche du Royaume-Uni, c'est la France. Hein. Donc depuis le Brexit, il y a une sorte de guerre de la pêche qui a lieu. Alors on a appelé ça guerre de la pêche parce que ça faisait classe, surtout parce qu'au début, les deux pays avaient envoyé des navires de guerre pour dire protéger leurs navires. Vous voyez, tout va bien. Donc le Royaume-Uni interdit à la plupart des bateaux français de venir pêcher dans les eaux territoriales du Royaume-Uni. Et de l'autre côté, la France bloque les importations de poissons anglais, alors que l'Union européenne était la plus grosse débouchée pour les pêcheurs du Royaume-Uni. Donc on voit, c'est une bonne petite guerre économique hein, entre deux grandes puissances, hein, ni plus ni moins. Voilà. Et dans ce bras de fer, tout semble permis, hein, donc pour faire pression sur l'autre. Alors, il y a eu effectivement, hein, je parlais des bateaux de guerre qui ont été déployés, et je parlais aussi du fait que par exemple, il y a aussi eu des menaces de porter plainte devant des tribunaux internationaux, tout ça, tout ça. Donc tout est mis en œuvre en ce moment pour dire c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Enfin voilà. Bon. Et c'est là en fait que le sort de ces réfugiés devient un enjeu bah, finalement politicard et malsain. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Alors vous vous souvenez peut-être, hein, si vous l'avez écouté, qu'on avait pris le temps de décortiquer ce qui se passait à la frontière polonaise et biélorusse avec les réfugiés utilisés hein, comme moyen de pression. Alors c'était dans l'émission 414 hein, du 14 novembre. Ça date d'il n'y a pas très longtemps, hein, 14 novembre 2021. Et donc on avait démontré que l'inhumanité était totale chez tous les pouvoirs pour faire d'êtres humains en fait des pions dans une guerre de pression larvée entre l'Union européenne et la Biélorussie, entre la Pologne et la Biélorussie. Eh bien autant vous dire qu'entre la France et le Royaume-Uni, eh ben on fait exactement la même chose. Hein. Oui. Voilà, et c'est ça qui est totalement dégueulasse.
Ça ressemble très fortement, quoi.
Ah ben on fait rien plus que cela hein, dans ce qui oppose les deux pays. Hein. Donc la France menace elle de laisser passer un maximum de réfugiés. Tiens, ça vous rappelle pas le discours d'un Biélorusse, voilà, Loukachenko, je crois. C'est ça. Ouais, non, mais je plaisante, s'il s'appelle vraiment Loukachenko. Voire même de les laisser monter sur les ferries. Vous voyez, parce que ça c'est le truc qui fait peur. Parce que au Royaume-Uni, il y a aussi des trucs un peu comme Zemmour qui s'appelle le UKIP. Vous voyez. Qui ont peur du grand remplacement, tout ça. Oh là là, ça fait peur. 4000 personnes sur 90 millions d'habitants. Enfin, voilà. Ça doit être terrible. Voilà. Et le Royaume-Uni, lui, il menace de couler en mer les bateaux, si besoin, de les faire couler par la marine anglaise. Alors, pourquoi? Parce qu'il dit que c'est une invasion. Alors, juste, je voulais rappeler, c'est exactement les mêmes arguments contre la Pologne et la Biélorussie. Et juste rappeler une chose, invasion, ça ne porte ce nom que quand les gens sont armés. Et ces réfugiés ne sont pas armés. Ils sont juste dans la merde.
Si, ouais. Ils sont armés de leur humanité. T'imagines, ouais, ça craint quand ça, même ça au craint. Milieu de...
Donc voilà, on a les mêmes arguments fallacieux et détestables hein, qui sont employés par les tenants des États polonais et biélorusses. Donc, sauf que là, bah, vous remplacez Pologne et Biélorussie par France et Royaume-Uni et vous avez à peu près la même politique qui est menée et les mêmes réfugiés qui sont traités comme des pions et qui se retrouvent dans une horreur absolue. Alors on mesure justement l'horreur et le cynisme hein, de tout ça quand même quand on le lit. Et on peut toucher du doigt à quel point hein, nos sociétés se sont déshumanisées hein, pour qu'aucune manifestation finalement, ou protestation ou presque, parce qu'il y a des gens qui essayent de mobiliser, n'ait lieu autour de tout cela pour dénoncer l'horreur d'utiliser des humains comme monnaie d'échange. Hein, voilà, humain, monnaie d'échange. C'est juste ça qu'on est en train de dire. D'autant plus que bah, ces humains, ils risquent leur vie. Donc c'est au péril de leur vie. Et on parle en fait là d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc juste d'humains. Voilà. Voilà. Ce réel caché, en fait, on le cache généralement sous le terme de migrant, entre guillemets. Migrant employé à toutes les sauces. En ce moment, c'est la campagne. Hein, donc voilà. Ouh là là. Sauf qu'en fait, un migrant, c'est juste quelqu'un qui cherche à pouvoir se poser quelque part. Hein, c'est tout. Et en fait, moi, j'emploie le terme réfugié, vous avez remarqué, depuis le début, parce que je trouve que c'est le vrai terme, en réalité. C'est des gens qui cherchent un refuge. C'est pas des gens qui cherchent juste à bouger, c'est pas des oiseaux migrateurs.
Hein, non, et puis c'est pas, je sais pas moi, des gens qui ont, je sais pas, ont fini leurs études, ils se disent tiens, je vais me prendre un an d'année sabbatique.
Ça, ça s'appelle un expatrié.
Mais oui, mais on parle bien de gens
qui fuient quelque chose.
On quitte rarement chez soi, si ce n'est par envie, etc. Comme ça, en prenant une barque, enfin, je veux dire.
Il y a mieux quand même pour partir de chez soi.
Ah bah oui, oui, oui.
Donc si les gens sont réduits à ça, c'est que vraiment c'est l'urgence quoi.
Et donc on peut le voir, hein, s'il faut effectivement combattre les extrêmes droites, et c'est extrêmement important, hein, les Le Pen, les Zemmour en France, le UKIP au Royaume-Uni, il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas oublier que Boris Johnson aujourd'hui a la moitié de son gouvernement qui est issu de l'extrême droite, donc c'est pas anodin. Il ne faudrait pas non plus se mentir sur le fait que dès maintenant des horreurs absolues sont commises et sont perpétrées et existent même sans que ces ordures-là soient au pouvoir. C'est-à-dire que pour complaire à une partie d'une population apeurée et pour essayer de freiner la montée de ces extrémistes qui jouent avec des peurs qui n'existent pas, je le redis, on fait des choses qui sont déshumanisées. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choses absolument dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot. Alors pour qu'on soit clair, hein, utiliser la misère et l'espoir de milliers de réfugiés pour des jeux bassement géopolitiques et économiques, parce que c'est de ça dont on parle, c'est juste injustifiable. À aucun moment et pour aucune raison. Jamais. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à y vouloir y trouver une raison valable, on bascule dans quelque chose qui n'est juste pas acceptable. Point. À mes yeux, je pense aux yeux de la causerie. Voilà.
Ah non, du tout.
Donc,
voilà.
Non, du tout.
Okay. Bon, bah, moi, je vais quitter l'émission. Ouais, alors,
évidemment, quoi. Non, voilà.
Donc, je vais maintenant vous parler des passeurs et de comment, en fait, ils servent à détourner l'attention. Alors, je vais parler des passeurs, mais pas pour rentrer du bien. Hein, mais je vais faire quand même un distinguo. Il y a une différence, en fait, entre les passeurs qui se font payer, qui sont vraiment des passeurs, eux, et qui vont voler les
papiers.
C'est un
business, quoi.
Voilà, qui c'est un vrai business, qui vont prendre de l'argent pour le passage et qui ne se mettent pas en danger, généralement. Ils ne font que mettre les gens sur des bateaux pourris et leur dire le moteur, c'est comme ça et tu vas tout droit, hein, voilà. Donc, on va pas se mentir. Et il existe quand même des guides, ce que moi j'ai appelé des guides et que des associations appellent des guides, qui eux, en fait, prennent des risques énormes avec les réfugiés, pour les aider. Pour les aider à traverser, pour les aider à passer des frontières, pour les aider à ne pas geler dans les Alpes, par exemple, ou se noyer dans la Manche ou la Méditerranée. Et ce ne sont pas, à proprement parler, eux, des passeurs, parce qu'en fait, ils le font gratuitement et ils risquent leur peau, eux aussi. Mais les États, eux, les classent dans la même catégorie, ce que moi, je ne ferais pas. C'est-à-dire que ceux dont je vais parler là, c'est ceux qui abusent de la misère des autres. Oui. C'est pas des gens qui viennent en aide et qui sont pas des passeurs, qui sont plutôt des gens qui aident. Voilà. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Il y a des gens qui aiment bien l'histoire. Voilà. Et puis, il y a Arnaud Montebourg qui parle de la remontada, tout ça, vous savez, tous ces trucs, voilà, qui sont liés à la guerre d'Espagne. Hein. Et si à l'époque, il n'y avait pas eu justement ces guides pour faire passer les gens sur la frontière pyrénéenne, il y a des tas de gens qui seraient morts de froid dans les Pyrénées, voilà. Et donc, c'est pas la même chose que des gens qui prennent tout le pognon des gens, qui leur piquent leurs papiers et qui abusent de la misère. Voilà, c'est juste cette différenciation-là que je veux faire. Donc, les passeurs, hein, sont des vraies crevures et des ordures, hein, très clairement, qui s'enrichissent sur le dos des réfugiés et qui abusent de leur faiblesse pour les pressurer, les maltraiter, les frapper, les humilier, les violer, enfin tout ce que vous voulez, hein, parce qu'il y a à peu près tout dégueulasse qui se met en place, les prostituées aussi parfois, et qui mettent clairement la vie des réfugiés en danger, hein, faut être très clair. Alors ne vous méprenez pas, hein, je vais pas ici les légitimer, hein, ce sont des mafieux et on ne légitime pas les mafieux. Voilà, tout simplement. Simplement, les gouvernements, aussi bien du Royaume-Uni que de la France, se servent de la lutte contre les passeurs, en fait, comme d'un épouvantail pour ne rien faire de plus. C'est-à-dire qu'on nous explique que tout est la faute des passeurs. Fous-toi de ma gueule. Qu'il faille prendre en compte que les passeurs font ce qu'ils font et ne pas les laisser agir et abuser de la faiblesse des gens, évidemment. Et je pense que toute personne, un brin humaniste, sans dire autre chose, devrait se dire... Oui, ces gens n'ont pas existé, on est d'accord. Mais il convient de ne pas nier que c'est bien la situation qui est créée par les États qui aident les passeurs. C'est cette situation-là qui fait qu'en fait, aujourd'hui, les passeurs sont au centre de ce système-là. C'est de l'opportunisme capitaliste de base, hein, que ces gens font. Hein. Ils sautent sur une opportunité de se faire du fric au détriment d'autres personnes. Voilà. Mais très clairement, c'est bien la situation créée par les États qui fait que les passeurs sont au centre. C'est pas autre chose. Alors, par exemple, il y a plusieurs associations qui soulignaient quelque chose de très simple. Si on offrait des logements décents aux réfugiés, c'est-à-dire si on les logeait dans des logements vides, dans des zones où on mettait le chauffage, l'eau, l'électricité, et ben, en fait, on aurait comme effet de casser presque immédiatement, en fait, le trafic des passeurs, en fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait que les gens, que les passeurs attirent des réfugiés, c'est que les réfugiés sont des conditions tellement terribles de vie qu'il suffit que quelqu'un arrive et dise « On va mettre fin à tout ça, tu me donnes 4 000 euros, on va se débrouiller, tu auras un bateau et demain, tu es au Royaume-Uni. » Et ben, en fait, ils y croient et c'est normal. Parce qu'ils ont envie de sortir de cet enfer.
Situation de merde,
oui. Bah oui. Donc en fait, les passeurs leur promettent de passer plus rapidement, mieux, vite, bien. Sauf que c'est pas vrai. La preuve, c'est qu'ils se noient. Hein, donc voilà. Et ça aide clairement en fait le business morbide de laisser les gens dans cette situation-là. Juste pour votre info, j'ai vérifié à Calais hier, il faisait -1 degré dans la nuit. Hein, donc voilà. Et on a des gens qui dorment dehors vu qu'ils ont plus de tente, vu qu'elles ont été pas lacérées, juste retirées et mis dans les
Avec humanité.
Avec humanité. Autre proposition donc de ces ONG, toujours dans le cadre actuel, hein, parce qu'encore une fois là je parle pas d'autre chose, je parle vraiment de ce qui se fait aujourd'hui, celle d'offrir en fait un permis de séjour sur le territoire français. En fait ils disent mais si vous voulez que ces personnes puissent ne serait-ce que travailler, parce que potentiellement elles pourraient travailler, il faudrait qu'elles aient un permis de séjour. Ça aurait pour effet de stabiliser ces personnes réfugiées le temps en fait qu'elles fassent leur démarche nécessaire légale pour passer au Royaume-Uni. Parce que qu'ils aient envie d'aller au Royaume-Uni, c'est légitime après tout. Mais là, ça leur laisserait le temps de se poser, de pouvoir aller voir le consulat ou le... Comment ça s'appelle ? C'est pas le consulat, c'est... L'ambassade du Royaume-Uni, voilà. D'aller faire leurs papiers, de pouvoir... ils auraient le temps s'ils avaient un statut de réfugié. Sauf que là, c'est des gens qui sont sur un territoire ou qui, s'ils sont pris, risquent de se retrouver en CRA et d'être expulsés. Centre de rétention administratif et d'être expulsés. Donc ça les oblige à se cacher et ça les oblige à vivre planqués en permanence, ce qui est horrible et ce qui ne permet pas de stabiliser, de pouvoir faire les choses légalement. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, ils ont qu'à faire les choses légalement. Bah oui, alors ça, ils aimeraient bien, mais là, ils peuvent pas, en fait, tout simplement. Et dernier point, tout simplement ne plus considérer les migrants. Je mets des guillemets à immigrants, parce que c'est le mot qu'emploie le gouvernement. Donc moi, je vais le redire, ne pas considérer ces humains, ces réfugiés, comme des délinquants. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un statut de délinquants. C'est ça le problème. Ils ne sont pas délinquants, ce sont des personnes en souffrance qui fuient des situations qui les ont jetées sur les routes du monde entier. Changer le statut législatif des personnes réfugiées serait le meilleur moyen de remettre en place une politique humaine, humaniste, d'accueil et d'aide aux plus démunis sur le territoire européen. Tout simplement. Rappelez-moi une des devises de l'Europe. Ah oui, la protection des plus faibles. Bon, on peut y aller.
C'est pas rajouté à condition qu'ils soient au moins européens.
Ah non, c'est la protection des plus faibles. Non mais voilà, c'est la preuve que, si je rappelle qu'on a des grands principes, allons-y. Donc les réfugiés, on va être très clair aussi, ils sortent pas de nulle part, faut arrêter de rêver. Sur un plan plus politique, on peut que comprendre que les réfugiés sont avant tout le fruit des catastrophes actuelles. Que ce soit les guerres, le réchauffement climatique, les oppressions par accaparement des richesses, tout suit ce qui relève en fait pleinement de notre monde régi par les États, le capitalisme et la compétition permanente, le tous contre tous finalement. Donc il nous faudra donc penser effectivement l'urgence, c'est un fait parce qu'il y a une urgence maintenant, mais aussi nous interroger profondément sur les causes. Ce n'est certainement pas les replis nationalistes, patriotes, régionalistes et autres qui nous aideront à sortir de tout ça. Pas du tout, vraiment pas. Ce n'est certainement pas la glorification d'un passé fantasmé qui nous fera avancer. Voilà. Et encore moins l'idée que nous devrions prendre soin des nôtres avant le reste. Parce que finalement, tout ce qui est humain est nôtre. Donc prenons soin des humains. Voilà. Encore une fois, les frontières, les pays, les divisions ne sont qu'un leurre inventé par les possédants pour mieux nous diviser et nous utiliser, finalement. La fierté du pays, de la région, de la ville, ce ne sont que des boulets pour mieux nous rassurer, tels des enfants accrochés à leur doudou. Ça ne sert qu'à ça. Nous ne sommes qu'une seule humanité, qu'une seule espèce humaine, et nous avons un destin commun à construire dans un internationalisme réveillé et repensé avec des outils modernes et des pensées ouvertes les uns sur les autres. Voilà.
Voilà. Il y a plein de trucs, ça m'a fait... sur la notion déjà aussi que les États créent des situations qui ensuite, derrière, ouvrent des opportunités pour les véreux. Pensais à un autre truc, mais c'est genre les marchands de sommeil, quoi.
C'est la même chose.
C'est-à-dire ceux qui arrivent à louer des taudis pour des centaines d'euros absolument incroyables.
Tu veux dire certains adjoints au maire de la mairie de Marseille, par exemple.
Et c'est exactement la même logique. C'est parce que collectivement, on n'arrive pas à avoir des toits pour tout le monde, alors qu'il y a des millions de mètres carrés qui sont vides, que des profiteurs, parce que c'est la même chose, c'est des profiteurs, des marchands de sommeil vont louer des taudis à des familles qui sont en demande en fait. Et elles ont le droit d'avoir
envie d'avoir un toit, tu vois.
Et que c'est tout ça en fait, et vraiment il y a tout ce truc là, c'est encore une fois toujours ces mêmes logiques qui l'emportent sur tout le reste, c'est-à-dire effectivement la propriété privée, l'État, le capital, c'est vieux comme le monde, et pourtant
et il y a des réalités aussi quand vous vendez 80 Rafales, donc ils sont des avions de bombardement, faut le rappeler, le Rafale ça sert à ça, c'est pas un avion pour surveiller, le Rafale ça sert à les tirer, donc c'est un avion de bombardement. Quand vous vendez 80 Rafales rafale à un pays, quel qu'il soit, hein, voilà, vous savez que ce pays prépare la guerre. Je veux dire, on n'achète pas 80 rafales pour le plaisir. Donc, en fait, à un moment donné, la responsabilité qu'on a à aller voir un pays pour vendre 80 rafales, leur vendre 80 rafales, et après leur dire, mais attention, hein, vous les utilisez pas pour faire la guerre, c'est vraiment du foutage de gueule. Et ça aussi, ça relève de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que le président de la France VRP, des usines françaises et de Dassault, en l'occurrence, aille le faire, ouais, c'est son job. Je veux dire, on sait que dans la 5ème République, fondée quand même par un militaire, l'idée, c'était quand même aussi que l'arsenal militaire français, ça servait à exporter. Bon, on le sait, mais c'est nous, les Français, les gens qui habitons en France, qui avons une responsabilité aussi. Parce qu'on n'est pas dans la rue, parce qu'on n'est pas à dire on ne veut pas qu'on fasse ça, parce qu'on n'est pas à demander à ce qu'on démantèle Dassault et qu'on fasse autre chose que des avions militaires, quelque chose comme ça. Et c'est des réalités, c'est-à-dire que c'est nous qui laissons aussi s'échapper ces sujets-là. Et le « nous », je m'inclus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas tout le temps dire c'est la faute de. Il y a aussi des responsabilités qui sont de notre faute à nous.
Notre inaction et notre passivité finalement ne fait que renforcer ces positions politiques et que ça me fait penser à à Libertad, le criminel c'est l'électeur et que c'est aussi nous tous en fait les passifs en fait et qu'en fait on retombe sur une question qu'on avait déjà évoquée d'autres fois, c'est l'antimilitarisme est une valeur complètement presque enterrée. Alors c'est très bien, et ça se renouvelle dans des exposition du mouvement passé, sauf que il serait peut-être temps aussi de le réanimer en fait. L'antimilitarisme est une valeur fondamentale en fait
de toute humanité.
Ouais, en fait, c'est ça, quoi. Et que vraiment, en fait, ça, c'est un truc, on l'a complètement perdu, quoi.
Et donc, enfin, bref. Alors, je dis ça, mais et aussi, par rapport, et je terminerai là-dessus, par rapport aux réfugiés, il y a des associations, alors je sais, qui ont besoin d'un coup de main. Alors, moi, j'habite pas Calais, je peux pas forcément aller à Calais aider directement. Par contre, elles ont des fois besoin juste de thunes pour payer des avocats, elles ont besoin des choses comme ça. Et ben, en fait, vous pouvez au moins aider comme ça. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, peut-être que ça vous paraît inutile parce que vous dites
non,
oui,
ça l'est
mais
pas.
En fait, ça l'est pas parce que c'est comme ça aussi qu'on peut, c'est pas une solidarité concrète et directe qu'en fait on fait avancer les choses.
Et je rappelle vite ce que tu en parles, les squats qui ont ouvert sur Lyon,
et à Lyon aussi,
pour les jeunes mineurs, etc., ont besoin absolument de moyens en ce moment, parce que c'est l'hiver, il faut chauffer, il faut bouffer, etc. Et vous avez ça partout. Ouais. Et que je voulais aussi juste souligner, c'est en Pologne aussi, il y a un mouvement de gens qui viennent aider les réfugiés, etc. Donc, encore une fois, tout n'est pas, c'est pas noir ou blanc, non. Et c'est beaucoup plus compliqué. Les gouvernants sont des pourritures, majoritairement à travers le globe, mais dans tout le lot en fait de ceux qui ne sont pas des gouvernants, il y a aussi des gens qui ont des valeurs à minima progressistes, voire révolutionnaires. Et c'est aussi ce lien-là qu'on doit continuer et solidifier et de consolider, j'ai envie de dire, parce que vraiment, les solutions viendront nous ou viendront pas, parce que les États sont absolument non. Rien à foutre. C'est une réalité.
Comme
en fait.
Tu disais, en Pologne, il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne laisseraient pas mourir des humains à côté de chez eux.
Ne l'oublions pas.
Et ben moi, j'appelle ça des super-héros sans cap. Voilà. Mais je trouve que c'est une belle image. Voilà.
Ok. Et ben, on passe à la musique ?
Bah oui.
Allez.
Oh,
ce n'est pas une prolongation de Dead Moon Night.
On pourrait croire.
On les salue encore une fois. Non, c'était Anna von Oswolf, avec le titre Évocation. Alors pourquoi je voulais le passer ce soir? Parce que en fait, il y a des intégristes catho qui ont empêché son concert à Nantes et à Paris. Et moi, quand il y a des intégristes catho qui veulent empêcher un truc, j'aime bien leur mettre dans les oreilles au cas où ils passeraient par hasard et qu'ils écoutent. Non, c'était pour vous entendiez que c'était pas vraiment la musique du diable, comme ils le disaient. C'est plutôt très bien. Donc voilà.
C'est de la musique, quoi.
Ouais, mais c'est vachement bien. Ouais. Donc voilà. Et donc du coup, et ben en parlant musique. Transition,
transition.
Et donc, Jean-Yves, tu vas nous parler d'un livre.
On parle en musique, tiens. Non, on va parler d'un livre
et qui parle d'un groupe
c'est
de
ça.
Musique.
Waouh, c'est incroyable. Donc, ce soir, effectivement, je vais vous causer d'un livre Amour et révolte. Le livre, c'est des Kings Queer et c'est aux éditions de la Trémie. Alors, si d'habitude, hein, je vous présente toujours les auteurs ou autrices, là, comment vous dire, si vous écoutez régulièrement La Causerie, ou en tout cas depuis quelques années, vous les aurez forcément déjà entendus chez nous, alors soit forcément un de leurs titres, parce que je pense qu'on n'est pas loin d'avoir passé les deux albums.
Ouais, clairement, ouais. Mais on en a mis sur les bandes aussi. Donc, voilà.
Soit une de leurs interviews, qui sont au nombre de trois dans La Causerie, hein, entre 2014 et 2019, en passant par 2016. Donc on peut vous réinviter à les réécouter, évidemment. Et bon, pour celles et ceux quand même qui ne les connaissent, qui ne les auraient jamais entendus, pour faire court, Grib et Let formaient un duo d'électro-post-punk de 2008 à 2021. Ouais, formé parce qu'on a appris il y a de cela quelques mois, la fin du duo. Alors, on va quand même passer au livre, parce que c'est quoi ce livre ? On peut se dire que c'est une autobiographie, hein, en quelques 28 petits chapitres et à peine plus de 130 pages. Et Grib et Led vont nous raconter les 13 années de l'aventure Kings Queer. Mais comme le disait souvent hein, Grib et Led, l'aventure n'était pas juste à deux. Et on le remarque même dans la construction du livre, en fait, parce que déjà la une du livre, c'est une photo qui est signée par Pierre Terrasson, qui est un très proche de Grib et Led. C'est suivi de la préface qui est écrite par Alice Beauté, avec qui les Kings Queer ont sillonné les routes et aussi réalisé un duo. Puis, chaque chapitre en fait commence de la même manière et nous démontre, là encore une fois, la notion de collectif, en tout cas de passerelle et de lien entre des sphères totalement qu'on pourrait croire opposées, mais qui finalement, avec les Kings, ça se tenait. Et donc on retrouve hein, cette notion du collectif qui est cher au Kings Queer. Déjà il y a un titre musical qui est cité, ce qui fait qu'en fait au bout des 28 chapitres, en fait vous avez une playlist et qui peut, je pense, fondamentalement ressembler ou en tout cas être la playlist des Kings Queer. Pour qui les connaît un petit peu, ça se tient complètement. Et suivi d'une intro aussi de quelques mots à quelques lignes par une personne qui leur est chère, avec qui ils ont bossé, avec qui ils ont fait les 400 coups, etc. etc. Et évidemment, hein, la suite, elle, c'est les aventures relatées, elles le sont uniquement par les points de vue de Grib et Led, et là, ça va à 100 à l'heure. Une sorte d'urgence du récit, hein, qu'on retrouve aussi dans l'urgence qui accompagnait presque toujours les Kings Queer, tout comme le bazar, enfin, une construction de livre qui n'est pas toujours linéaire, ordonnée, mais c'est pas forcément chaotique, hein. Qu'on se le dise. Et pour commencer, ça tombe bien, on découvrira, pour celles et ceux qui ne la connaissaient pas, c'était mon cas personnel, c'est la naissance du duo, en fait, qui se fera suite à deux spectacles musicaux qui a fait se rencontrer Grib et Led, et le grand soir arrive, dans l'urgence déjà, du côté de l'Alsace, en novembre 2008. Et effectivement, enfin, vous lirez le bouquin, l'urgence, c'est tout le temps. Et ainsi, on part pour 13 années d'aventure, 13 ans de musique, évidemment, hein, on parle quand même d'un groupe de musique, mais aussi 13 ans de rencontres et des milliers de kilomètres d'asphalte bouffé, parce que vraiment, c'est des milliers de kilomètres. Je veux dire, avant, je lisais un passage, avant de prendre l'antenne, en deux jours, ils ont fait 2000 kilomètres, quoi.
Donc, normal.
Voilà, c'est un bon résumé de ce qu'était un peu la vie des Kings.
Et la vie de beaucoup d'artistes, en fait, finalement.
Aussi.
Qui passent beaucoup de temps sur les routes. Hein.
C'est ça. Et ça ira ensuite de lancement d'album dans une performance artistique qui va les secouer les médias parisiens jusqu'à leur expérience lointaine au Japon ou Tahiti. Et juste parce que je trouvais que c'était rigolo... c'est ce lancement d'album en fait où ils se disent tiens mais qu'est-ce qu'on peut faire parce que je vais dire
on n'a pas vraiment de gros moyens, quoi. Donc, deux mots sortent de la bouche de Grib, guérilla sonore. Olivier venait d'avaler une gorgée de vin, il s'étrangla de ces mots. Mais qu'est-ce? Attirer la presse sur des groupes comme nous, c'est quasiment mission impossible. Jamais ils ne se déplaceront. Alors, il faut aller à eux. Et pour ce faire, il nous faut un pick-up avec un groupe électrogène, histoire de jouer des extraits de CD devant les différentes rédactions. Un vrai plan commando. Une guérilla sonore de nos amours et révoltes. Après maintes arguments, Olivier est plus que partant. Reste à réfléchir à la mise en place. Le label s'occupe de la location du véhicule, du groupe électrogène et de la commande de la banderole King Square, Amour et Révolte Tour. Fond noir, typo blanche. Nous devons trouver un chauffeur, réfléchir aux médias visés et communiquer sur l'événement. Et donc là, on va suivre cette guérilla sonore qui est
Je m'en souviens, ils avaient débarqué chez YAG à l'époque.
Ouais, chez YAG. Ils ont commencé à Luma.
C'est
comment rentrer dans un parking alors qu'il y a une barrière? Eh ben, tu colloques ce qu'il y a devant et tout ça pour faire la promo de l'album. Donc voilà, c'est. Enfin, moi, je. Enfin, on les a eu plusieurs fois. Donc, et c'est vraiment, on retrouve là.
Qu'on aime beaucoup, vous l'aurez compris.
On trouve tout. Enfin, on retrouve là vraiment l'esprit punk, finalement, qui était. Qui accompagnait Gribelet dans les King Square.
Et qui les accompagne sûrement aujourd'hui encore, dans les King Square.
Évidemment. Et sans oublier aussi, dans tout ce qui est relaté, les bonnes soirées de soutien dans les squats, parce qu'ils en ont fait beaucoup, beaucoup. D'autres aussi qui sont moins bonnes, dans des lieux dégueulasses, ou encore avec des collectifs organisateurs. Moi, je l'écris, mais complètement abruti. Enfin, soit ils s'entendent pas, ou alors ils vont faire des reproches à deux balles, ou ils vont pas vouloir payer. Enfin, c'est aussi ça. Et sans oublier aussi les créations pour les galeries d'art, parce que les Kings c'était aussi ça, le grand écart permanent, les résidences artistiques, les compos et l'urgence et la dèche, toujours là. Du moins jamais très loin en fait, c'est une réalité. Et moi j'ai aimé aussi ce côté on joue franc jeu en fait, tant sur les expériences et émotions positives que sur les expériences qu'on aimerait vraiment pas vivre en fait. Et Gribelet en fait, pour ce qui est devient finalement leur dernière création, se sont beaucoup livrés, moi j'ai trouvé en fait, quitte à parfois pas tenir forcément le bon rôle. Alors rien de grave, mais vivre en fait avec des artistes, c'est pas vraiment une cure de repos tout le temps. Et je trouve que, ils auraient pu jouer un peu lisser tout ça en fait. Alors qu'en fait, tu te rends compte que, des fois, ça peut être compliqué à mon avis de vivre avec des créatifs, quoi. C'est-à-dire, tu te réveilles et direct, faut que tu t'y mettes, quoi. Bref. Ce livre, je vous le conseille pour celles et ceux qui ont aimé les King Square, tout comme celles et ceux qui ne les connaissent pas. Parce que si évidemment ça parle du duo, de musique et de tout ça, enfin je veux dire, ça parle aussi de quand ils ont rencontré Patti Smith, enfin des choses, parce que même quand on est artiste, on peut aussi être fan en fait, et on est souvent
fan
d'autres artistes. Et donc quand vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous adorez qui est tout ça, c'est aussi dans le bouquin, et je trouve que c'est tout ça en fait que je trouve très riche, et que ça raconte aussi.
Moi quand j'ai rencontré Laurent le grand timonier de la Bécanue,
ça t'a fait un effet?
Ouais, c'était un petit clin d'œil.
Ça nous raconte aussi des choses sur nos milieux. Des milieux politisés au milieu artistique, tout comme aussi ça nous montre ce que c'est qu'être un groupe complètement indépendant, sans manager, sans attaché de presse, etc., etc., et que clairement il faut vraiment vouloir vivre de son art et s'y accrocher, parce que c'est très loin d'être, vraiment très loin, et ils le disent souvent, c'est aussi King Square, c'était une aventure artistique, mais c'était aussi une aventure humaine et amoureuse, ce qui fait que je pense que ça aide à tenir. Si t'as pas ça tout seul, je sais pas si tu tiens. Donc voilà, enfin bref. Alors évidemment, si les King Square ne sont plus, ça fait un peu mortuaire, mais
non, c'est comme ça.
Non, mais c'est ça.
La musique, c'est
le groupe n'existe plus. Il nous reste quand même ce livre, et que moi, enfin, vraiment, je vous conseille, et aussi leurs albums, leurs deux albums, et aussi deux artistes qui continuent leur route en fait. On ne l'oublions pas, ils ne sont pas morts. C'est juste le groupe qui s'arrête. Et si on vous a déjà passé le premier titre solo de Grib, qui maintenant est avec son nom d'artiste, c'est Grib and So What. On l'avait passé il y a quelques mois.
Ouais, il y a 3-4 semaines.
Ou 3-4 semaines, ok. Et
peut-être plus.
Plus. Et bien, la semaine prochaine, on recevra Let, mais pas seul, pour sa nouvelle aventure musicale avec, je peux donner le nom du groupe?
Bah oui.
Et ben voilà.
Je sais comment il se prononce.
Switches, moi je dirais. Switches. Donc voilà, le rendez-vous est aussi donné la semaine prochaine. Donc je vous le rappelle, le nom, le titre de ce livre, hein, c'est Amour et Révolte, le livre. C'est aux éditions, pardon, de la Trémie. Et le livre coûte 16 balles. Alors c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez pas commander forcément directement auprès de la maison d'édition. Par contre, par exemple, sur Paris, je sais qu'il y a 2-3 maisons librairies qui les ont. Sinon, c'est sur Rakuten. Ça fait un peu chier. Ouais, mais voilà. Sinon, vous pouvez peut-être aussi vous rapprocher des librairies même parisiennes
commander. Alors, il a un numéro ISBN, donc vous pouvez le faire commander à n'importe quelle librairie.
Ah ben voilà. Donc n'hésitez pas à rapprocher-vous de vos libraires. Donc voilouche. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, sinon
musique.
Mais oui, Amour et Révolte, le livre, on passe à la musique.
Les seuls gens sont les fous, ceux qui tombent à genoux avec cette folle envie de vivre, de parler. Fou de désir pour tout à la fois, prince en haillon, sans baillon et roi dans leur foi. Soyons celles et ceux accrochés à cette folie, incompris ce que ça l'est, désillusionnés en bâtissant les maladies. Agrippons-nous à cet étendard de survie. N'ayons plus aucune crainte, laissons nos empreintes. Soyons ceux qui ne reflètent plus une société, mais ceux qui tentent de la changer. Restons les seuls leaders de nos vies, même quand ça fait peur.
Ça s'arrête comme ça, brutalement. Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie, toujours sur le 102.2 de la bande FM et toujours sur RadioCanu.org. Et on vient donc de s'écouter Amour et Révolte, vous l'aurez compris, des Kings Queer. Et c'est issu, je crois, de leur premier album, ce titre-là. Et vous en avez donc deux à disposition pour égayer vos soirées. Et...
Deux albums.
Ouais. Oui.
Non, pas de Kings Queer, deux albums.
Deux albums. Donc voilà. Eh bien, on va se quitter avec quelques brèves. Alors, je crois que je suis le seul à les gérer.
Ah ouais, vas-y, c'était
donc,
à fond.
Ouais, c'est ça. Donc, le premier, ça commence mardi 14 décembre à midi. Dès le 1er mars dernier, notre collectif constitué d'enseignants, de parents, de professionnels de santé interpellait l'ARS, l'Agence régionale de santé, par l'intermédiaire de la mairie de Vaux-en-Velin et l'inspection académique pour dénoncer la crise du secteur médico-psychosociale pour les enfants de notre commune. Nous organiserons un nouveau rassemblement le mardi 14 décembre à midi devant l'hôtel de ville de Vaux-en-Velin pour continuer de dénoncer cette situation.
Alors, jeudi 16 décembre, si tu veux.
Ah ouais.
Alors, jeudi 16 décembre, c'est comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda. C'est une rencontre avec Thomas Barthes de l'association Survie. C'est table rase qui vous convie à une conférence débat avec Thomas Barthes de l'association Survie pour discuter néocolonialisme français en Afrique. Et c'est donc jeudi 16 décembre à 18h30 à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière, 27 rue Salomon. Reinhardt, Lyon 7e, prévoyez de vous couvrir. Ouais. Parce que c'est pas chauffé.
Je crois, oui.
Voilà.
Et ensuite, dernier rendez-vous, en tout cas que nous on a, c'est samedi 18 décembre, c'est rassemblement pour la journée internationale des migrants-migrantes. C'est place de la Comédie à Lyon, donc à partir de 14h30. Et en fait, c'est un appel du collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon 69. Dedans, il y a plein d'orgas. Et donc, pour se rappeler que, en fait. Pour demander qu'on arrête d'enfermer les gens et la liberté de circulation, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Donc ça, c'est samedi 18 décembre à 14h30, place de la Comédie dans le premier arrondissement.
Voilà.
Voilà pour les infos.
Et la causerie qui sera là le 19 à 22h.
C'est ça.
Avec des invités, donc, comme vous l'aurez compris tout à l'heure dans la chronique de Jean-Yves.
Tout à fait. Voilà. C'est formidable tout ça. Eh bien, on va se quitter, en plus, presque à l'heure, c'est formidable.
Ouais, mais avant de se quitter, j'ai juste un petit mot à dire. Donc là, on va se quitter en musique avec, un petit mot, arrête, c'est déjà pas facile. Donc, non, voilà, on va se quitter en musique avec Bronski Beat et Small Town Boy. J'avais envie de le passer parce que Steve Bronski, qui était le fondateur de Bronski Beat, est mort à 61 ans. Et que, pour moi et pour plein de gens, c'est un des groupes qui a permis la visibilité des LGBT dans les années 80-90. C'est un des groupes qui a su mettre des mots sur ce que l'on vivait. C'est un des groupes qui a dénoncé le fait que mettre dehors son gamin parce qu'il est gay, on était en 1984, c'était une horreur absolue et qu'ils l'ont fait en chanson. C'est de ça dont parle Small Town Boy qu'on va écouter. Moi, c'est un des groupes qui m'a constitué à titre personnel et qui m'a aidé à être beaucoup mieux dans mes baskets. Voilà, et j'avais envie de leur rendre hommage ce soir parce que je trouve que mon enfance commence et mon adolescence commence à se barrer. Il y a Anne Rice qui est morte aussi. Bon, bref, c'est la merde. Je deviens vieux. Mais blague à part. Non, là, c'était pour le côté. Parce que même, vous savez, même quand les gens meurent, il faut garder des paillettes, comme on dit. Donc, c'était une petite blagounette. En tout cas, un grand merci à Steve Bronski pour ce qu'il a fait. Et je vous laisse écouter Small Town Boy. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Et puis Bronski Beat, quand même, il y a quand même plus qu'un titre
écoutez,
qui sont super connus et qui font danser.
Bronski Beat, quoi.
Qui vous feront danser forcément. Donc poussez un peu la table basse, là, ouais. Et wouhou, c'est parti!
Et écoutez aussi ce qui est moins connu d'eux. Parce que c'est vraiment. Enfin, tout est beau. Vraiment. Voilà.
Allez, on vous laisse pour de vrai. On vous dit à dimanche prochain. Bon courage pour la semaine à venir.
Ouais.
Des bisous. Ciao.
Salut.
Ciao.